Les marchandes de sable, les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Les loups. Sophie n'était pas très obéissante. Nous l'avons bien vu dans les histoires que nous venons de lire. Elle aurait dû être corrigée, mais elle ne l'était pas encore. Aussi lui arriva-t-il bien d'autres malheurs. Le lendemain du jour où Sophie avait eu 4 ans, sa maman l'appela et lui dit « Sophie, je t'ai promis que lorsque tu aurais 4 ans, tu viendrais avec moi faire mes grandes promenades du soir. Je vais partir pour aller à la ferme de Svitin en passant par la forêt. Tu vas venir avec moi. Seulement, fais attention à ne pas te mettre en arrière. Tu sais que je marche vite. Et si tu t'arrêtais, tu pourrais rester bien loin derrière avant que je puisse m'en apercevoir. » Sophie, enchantée de faire cette grande promenade, promit de suivre sa maman de tout près et de ne pas se laisser perdre dans les bois. Paul, qui arriva au même instant, demanda à les accompagner, à la grande joie de Sophie. Ils marchèrent bien sagement pendant quelque temps derrière Madame de Réan. Ils s'amusaient à voir courir et sauter quelques gros chiens qu'elle emmenait toujours avec elle. Arrivés dans la forêt, les enfants cueillirent quelques fleurs qui étaient sur leur passage, mais ils les cueillaient sans s'arrêter. Sophie aperçut tout près du chemin une multitude de fraisiers chargés de fraises. « Les belles fraises !» s'écria-t-elle. « Quel dommage de ne pas pouvoir les manger !» Madame de Réan entendit l'exclamation et se retournant, elle lui défendit encore de s'arrêter. Sophie soupira et regarda d'un air de regret les belles fraises dont elle avait si envie. « Ne les regarde pas, lui dit Paul, et tu n'y penseras plus. C'est qu'elles sont si rouges, si belles, si mûres, elles doivent être si bonnes. Plus tu les regarderas et plus tu en auras envie, puisque ma tante t'a défendu de les cueillir. À quoi sert-il de les regarder ? J'ai envie d'en prendre seulement une. Cela ne me retardera pas longtemps. Reste avec moi, nous en mangerons ensemble. Non, je ne veux pas désobéir à ma tante et je ne veux pas être perdue dans la forêt. Mais il n'y a pas de danger. Tu vois bien que c'est pour nous faire peur que maman l'a dit. Nous saurions bien retrouver notre chemin si nous restions derrière. Mais non, le bois est très épais. Nous pourrions bien ne pas nous retrouver. Fais comme tu voudras, poltron. Moi, à la première place de fraises comme celles que nous venons de voir, j'en mangerai quelques-unes. Je ne suis pas un poltron, mademoiselle. Et vous, vous êtes une désobéissante et une gourmande. Perdez-vous dans la forêt, si vous voulez. Moi, j'aime mieux obéir à ma tante. Et Paul continua à suivre Madame de Réan, qui marchait assez vite et sans se retourner. Ses chiens l'entouraient et marchaient devant et derrière elle. Sophie aperçut bientôt une nouvelle place de fraises aussi belle que les premières. Elle en mangea une, qu'elle trouva délicieuse, puis une seconde, une troisième. Elle s'accroupit pour les cueillir plus à son aise et plus vite. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil sur sa maman et sur Paul, qui s'éloignaient. Les chiens avaient l'air inquiets. Ils allaient vers le bois, ils revenaient. Ils finirent par se rapprocher tellement de Madame de Réan qu'elle regarda ce qui causait leur frayeur. Et elle aperçut dans le bois, au travers des feuilles, des yeux brillants et féroces. Elle entendit en même temps un bruit de branches cassées, de feuilles sèches. Se retournant pour recommander aux enfants de marcher devant elle, quelle fut sa frayeur de ne voir que Paul. « Où est Sophie ? » s'écria-t-elle. « Elle a voulu rester en arrière pour manger des fraises, ma tante. »« Malheureuse enfant, qu'a-t-elle fait ? Nous sommes accompagnés par des loups, retournons pour la sauver s'il est encore temps. » Madame de Réan courut, suivie de ses chiens et du pauvre Paul terrifié, à l'endroit où devait être restée Sophie. Elle l'aperçut de loin, assise au milieu des fraises, qu'elle mangeait tranquillement. Tout à coup, deux des chiens poussèrent un hurlement plaintif et coururent à toutes jambes vers Sophie. Au même moment, un loup énorme, aux yeux étincelants, à la gueule ouverte, sortit sa tête hors du bois avec précaution. Voyant accourir les chiens, il hésita un instant. Croyant avoir le temps avant leur arrivée d'emporter Sophie dans la forêt pour la dévorer ensuite, il fit un bond prodigieux et s'élança sur elle. Les chiens, voyant le danger de leur petite maîtresse et excités par les cris d'épouvante de Madame de Réan et de Paul, redoublèrent de vitesse et vinrent tomber sur le loup au moment où il saisissait les jupons de Sophie pour l'entraîner dans le bois. Le loup, se sentant mordu par les chiens, lâcha Sophie et commença avec une bataille terrible. La position des chiens devint très dangereuse par l'arrivée des deux autres loups qui avaient suivi Madame de Rayan et qui accouraient aussi. Mais les chiens se battirent si vaillamment que les trois loups prirent bientôt la fuite. Les chiens, couverts de sang et de blessures, mirent lécher les mains de Madame de Rayan et des enfants, restés tremblants pendant le combat. Madame de Rayan leur rendit leurs caresses et se remit en route, tenant chacun des enfants par la main et entouré de ses courageux défenseurs. Madame de Rayan ne disait rien à Sophie, qui avait de la peine à marcher, tant ses jambes tremblaient de la frayeur qu'elle avait eue. Le pauvre Paul était presque aussi pâle et aussi tremblant que Sophie. Ils sortirent enfin du bois et arrivèrent près d'un ruisseau. « Arrêtons-nous là, » dit Madame de Rayan. « Buvons tous un peu de cette eau fraîche dont nous avons besoin pour nous remettre de notre frayeur. » Et Madame de Rayan, se penchant vers le ruisseau, en but quelques gorgées et jeta de l'eau sur son visage et sur ses mains. Les enfants en firent autant. Madame de Rayan leur fit tremper la tête dans l'eau fraîche. Ils se sentirent ranimés et leur tremblement se calma. Les pauvres chiens s'étaient tous jetés dans l'eau. Ils buvaient, ils lavaient leurs blessures, ils se roulaient dans le ruisseau et ils sortirent de leur bain nettoyés et rafraîchis. Au bout d'un quart d'heure, Madame de Rayan se leva pour partir. Les enfants marchèrent près d'elle. « Sophie, » dit-elle, « crois-tu que j'ai eu raison de te défendre de t'arrêter ?»« Oh oui, maman, je vous demande bien pardon de vous avoir désobéi. Et toi, mon bon Paul, je suis bien fâchée de t'avoir appelé poltron. »« Poltron, tu l'as appelé poltron. Sais-tu que lorsque nous avons couru vers toi, c'est lui qui courait en avant ? As-tu vu que lorsque les autres loups arrivaient au secours de leurs camarades, Paul, armé d'un bâton qu'il avait ramassé en courant, s'est jeté au-devant d'eux pour les empêcher de passer, et que c'est moi qui ai dû l'enlever dans mes bras et le retenir auprès de toi pour l'empêcher d'aller au secours des chiens ? As-tu remarqué aussi que, pendant tout le combat, il s'est toujours tenu devant toi pour empêcher les loups d'arriver jusqu'à nous ? Voilà comme Paul est poltron. » Sophie se jeta au cou de Paul et l'embrassa 10 fois en lui disant « Merci mon bon Paul, mon cher Paul, je t'aimerai toujours de tout mon cœur. » Quand ils arrivèrent à la maison, tout le monde s'étonna de leur visage pâle et de la robe de Sophie déchirée par les dents du loup. Madame de Rayan raconta leur terrible aventure. Chacun loua beaucoup Paul de son obéissance et de son courage. Chacun blâma Sophie de sa désobéissance et de sa gourmandise. Et chacun admira la vaillance des chiens, qui furent caressés et qui eurent un excellent dîner d'os et de restes de viande. Le lendemain, Madame de Rayan donna à Paul un uniforme complet de zouave. Paul, fou de joie, le mit tout de suite et entra chez Sophie. Elle poussa un cri de frayeur en voyant entrer un turc coiffé d'un turban, un sabre à la main, des pistolets à la ceinture. Mais Paul s'étant mis à rire et à sauter, Sophie le reconnut et le trouva charmant avec son uniforme. Sophie ne fut pas punie de sa désobéissance. Sa maman pensa qu'elle l'avait été assez par la frayeur qu'elle avait eue et qu'elle ne recommencerait pas. La joue écorchée. Sophie était colère. C'est un nouveau défaut dont nous n'avons pas encore parlé. Un jour, elle s'amusait à peindre un de ses petits cahiers d'images, pendant que son cousin Paul découpait des cartes pour en faire des paniers à salade, des tables et des bancs. Ils étaient tous deux assis à une petite table en face l'un de l'autre. Paul, en remuant les jambes, faisait remuer la table. « Fais donc attention !» lui dit Sophie d'un air impatienté. « Tu pousses la table, je ne peux pas peindre !» Paul prit garde pendant quelques minutes, puis il oublia et recommença à faire trembler la table. « Tu es insupportable, Paul !» s'écria Sophie. « Je t'ai déjà dit que tu m'empêchais de peindre. »« Ah bah, pour les belles choses que tu fais, ce n'est pas la peine de se gêner. »« Je sais très bien que tu ne te gênes jamais, mais comme tu me gênes, je te prie de laisser tes jambes tranquilles. » Paul d'un air moqueur. « Mes jambes n'aiment pas rester tranquilles. Elles bougent malgré moi. »« Je les attacherai avec une ficelle, tes ennuyeuses jambes, et si tu continues à les remuer, je te chasserai. »« Essaie donc un peu. » « Tu verras ce que ça fait les pieds qui sont au bout de mes jambes. »« Vas-tu me donner des coups de pied, méchant ?»« Certainement si tu me donnes des coups de poing. » Sophie, tout à fait en colère, lance de l'eau à la figure de Paul, qui, se fâchant à son tour, donne un coup de pied à la table et renverse tout ce qui était dessus. Sophie s'élance sur Paul et lui griffe si fort la figure que le sang coule de sa joue. Paul crie. Sophie, hors d'elle-même, continue à lui donner des tapes et des coups de poing. Paul, qui n'aimait pas à battre Sophie, finit par se sauver dans un cabinet où il s'enferme. Sophie a beau frapper à la porte, Paul n'ouvre pas. Sophie finit par se calmer. Quand sa colère est passée, elle commence à se repentir de ce qu'elle a fait. Elle se souvient que Paul a risqué sa vie pour la défendre contre les loups. « Pauvre Paul, » pensa-t-elle, « comme j'ai été méchante pour lui. Comment faire pour qu'il ne soit plus fâché? Je ne voudrais pas demander pardon. C'est ennuyeux de dire « pardonne-moi ». Pourtant, » ajouta-t-elle après avoir un peu réfléchi, « c'est bien plus honteux d'être méchant. Et comment Paul me pardonnera-t-il si je ne lui demande pas pardon ?» Après avoir un peu réfléchi, Sophie se leva, alla frapper à la porte du cabinet où s'était enfermé Paul, mais cette fois pas avec colère, ni en donnant de grands coups de poing, mais doucement, elle appela d'une voix bien humble « Paul, Paul !» Mais Paul ne répondit pas. « Paul, » ajouta-t-elle toujours d'une voix douce, « mon cher Paul, pardonne-moi, je suis bien fâchée d'avoir été méchante. Paul, je t'assure que je ne recommencerai pas. » La porte s'entr'ouvrit tout doucement et la tête de Paul parut. Il regarda Sophie avec méfiance. « Tu n'es plus en colère ? Bien vrai ?» lui dit-il. « Oh non, non, bien sûr, cher Paul, » répondit Sophie. « Je suis bien triste d'avoir été si méchante. » Paul ouvrit tout à fait la porte et Sophie, levant les yeux, vit son visage tout écorché. Elle poussa un cri et se jeta au cou de Paul. « Oh, mon pauvre Paul, comme je t'ai fait mal, comme je t'ai griffé !» Que faire pour te guérir ? Ce ne sera rien, répondit Paul. Cela passera tout seul. Cherchons une cuvette et de l'eau pour me laver. Quand le sang sera parti, il n'y aura plus rien du tout. Sophie courut avec Paul chercher une cuvette pleine d'eau. Mais il eut beau tremper son visage dans la cuvette, frotter et essuyer, les marques des griffes restaient toujours sur la joue. Sophie était désolée. Que va dire maman ? Dit-elle, elle sera en colère contre moi et elle me punira. Paul, qui était très bon, se désolait aussi. Il ne savait qu'imaginer pour ne pas faire gronder Sophie. Je ne peux pas dire que je suis tombée dans les épines, dit-il, parce que ce ne serait pas vrai. Mais si, attends donc, tu vas voir. Et voilà Paul qui part en courant. Sophie le suit. Ils entrent dans le petit bois près de la maison. Paul se dirige vers un buisson de houx, se jette dedans et se roule de manière à avoir le visage piqué et écorché par les pointes des feuilles. Il se relève plus écorché qu'auparavant. Lorsque Sophie voit ce pauvre visage tout saignant, elle se désole, elle pleure. « C'est moi, dit-elle, qui suis cause de tout ce que tu souffres, mon pauvre Paul. C'est pour que je ne sois pas punie et que tu t'écorches plus encore que je ne l'avais fait dans ma colère. Oh, cher Paul, comme tu es bon !» Comme je t'aime. Allons vite à la maison pour me laver encore le visage, dit Paul. N'aie pas l'air triste, ma pauvre Sophie. Je t'assure que je souffre très peu. Demain, ce sera passé. Ce que je te demande seulement, c'est de ne pas dire que tu m'as griffé. Si tu le faisais, j'en serais fort triste et je n'aurais pas la récompense de mes piqûres de houx. Me le promets-tu ? Oui, dit Sophie en l'embrassant. Je ferai tout ce que tu voudras. Ils rentrèrent dans leur chambre et Paul retrempa son visage dans l'eau. Quand ils allèrent au salon, les mamans qui y étaient poussèrent un cri de surprise en voyant le visage écorché et bouffi du pauvre Paul. « Où t'es-tu arrangé comme cela ?» demanda Madame d'Aubert. « Mon pauvre Paul, on dirait que tu t'es roulé dans les épines. » « C'est précisément ce qui m'est arrivé, maman. Je suis tombée en courant dans un buisson de houx et en me débattant pour me relever, je me suis écorché le visage et les mains. » « Tu es bien maladroit d'être tombé dans ce houx. Tu n'aurais pas dû te débattre, mais te relever bien doucement. » « Madame de Réan, où donc étais-tu, Sophie ? Tu aurais dû l'aider à se relever. » « Elle courait après moi, ma tante. Elle n'a pas eu le temps de m'aider. Quand elle est arrivée, je m'étais déjà relevée. » Madame d'Aubert emmena Paul pour mettre sur ses écorchures de la pommade de concombre. Sophie resta avec sa maman, qui l'examinait avec attention. « Pourquoi es-tu triste, Sophie ?»«
Je ne suis pas triste, maman. »«
Si fait, tu es triste et inquiète, comme si quelque chose te tourmentait. »«
Je n'ai rien, maman. Je n'ai rien. » Tu vois bien que même en me disant que tu n'as rien, tu es prête à sanglots.
Je ne peux pas vous dire. J'ai promis à Paul.
Écoute, Sophie, si Paul a fait quelque chose de mal, tu ne dois pas tenir ta promesse de ne pas me le dire. Je te promets, moi, que je ne gronderai pas Paul et que je ne le dirai pas à sa maman. Mais je veux savoir ce qui te rend si triste, ce qui te fait pleurer si fort, et tu dois me le dire.
Sophie cache sa figure dans les genoux de Madame de Réan et sanglote si fort qu'elle ne peut pas parler. Madame de Réan cherche à la rassurer, à l'encourager. Et enfin, Sophie lui dit
« Paul n'a rien fait de mal, maman. Au contraire, il est très bon et il a fait une très belle chose. C'est moi seule qui ai été méchante. Et c'est pour m'empêcher d'être grondée et punie qu'il s'est roulé dans le houx. »
Madame de Réan, de plus en plus surprise, questionna Sophie, qui lui raconta tout ce qui s'était passé entre elle et Paul.
« Excellent petit Paul !» s'écria Madame de Réan. « Quel bon cœur il a! Quel courage et quelle bonté! Et toi, ma pauvre Sophie, quelle différence entre toi et ton cousin! Vois comme tu te laisses aller à tes colères et comme tu es ingrate envers cet excellent Paul, qui te pardonne toujours, qui oublie toujours tes injustices et qui aujourd'hui encore a été si généreux pour toi.
Oh oui, maman, je vois bien tout cela, et à l'avenir jamais je ne me fâcherai contre Paul.
Je n'ajouterai aucune réprimande ni aucune punition à celle que te fait subir ton cœur. Tu souffres du mal de Paul et c'est ta punition. Elle te profitera plus que toutes celles que je pourrais t'infliger. D'ailleurs, tu as été sincère, tu as tout avoué quand tu pouvais tout cacher. C'est très bien, je te pardonne à cause de ta franchise. »